La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi, dernier moment de notre semaine Stéphane Zweig, une émission consacrée aujourd'hui à l'esprit profondément européen qui animait l'écrivain autrichien. Au lieu d'écouter les vaines prétentions des roitelets, des sectateurs et des égoïsmes nationaux, la mission de l'Européen est au contraire de toujours insister sur ce qui lie et ce qui unit les peuples, d'affirmer la prépondérance de l'Européen sur le national, de l'humanité sur la patrie, et de transformer la conception de la chrétienté, considérée en tant que communauté uniquement religieuse, en celle d'une chrétienté universelle, en un amour de l'humanité, humble, serviable et dévoué. Stéphane Zweig à propos d'Erasme. Car c'est en effet sur l'image d'un écrivain parfaitement cosmopolite, tirant le meilleur d'une époque où les trains rapides et le télégraphe intensifiaient la mondialisation, que nous allons terminer cette série d'émissions à lui consacrée. Mon invité est Serge Niemetz, auteur aux éditions Belfond d'une biographie de l'écrivain intitulée Stefan Zweig, le voyageur et ses mondes, paru en 1996 et réédité en 2011 chez Belfond. Il est également le traducteur de l'autobiographie de Zweig, Le monde d'hier, sous-titré Souvenir d'un Européen, une autobiographie dont voici un extrait en introduction, lu ici par Guillaume Gallienne.
Le soleil brillait vif et plein. Comme je m'en retournais, j'observais soudain mon ombre devant moi, comme j'avais vu l'ombre de l'autre guerre derrière la guerre actuelle. Elle ne m'a pas quitté à travers toutes ces années, cette ombre. Elle voilait de deuil chacune de mes pensées, de jour et de nuit. Peut-être que sa sombre silhouette apparaît dans bien des pages de ce livre. Mais toute ombre, après tout, est fille de la lumière.
Toute ombre est fille de la lumière. C'est par ces mots que Stefan Zweig achevait son autobiographie, Le monde d'hier, que vous avez traduite. Serge Niemetz, bonjour à vous.
Bonjour.
Toute ombre est fille de la lumière, c'est une phrase qui sonne un peu comme de l'auto-persuasion. Vous ne trouvez pas dans le cas de Stefan Zweig et au moment où il écrit ces lignes?
Oui, tout à fait. Comme dans sa dernière déclaration, il envisage la possibilité d'une aube nouvelle, mais qu'il ne verra plus. Donc certainement une volonté, mais il n'y croit déjà plus vraiment. Je voudrais revenir tout de suite parce que ça me semble vraiment très très important. Vous avez d'emblée parlé de l'esprit de l'Europe et de Zweig en défenseur de l'esprit de l'Europe. Oui, certes, mais il me semble d'abord que l'Europe a d'abord pour lui une réalité charnelle. C'est quelque chose à quoi il adhère dès ses premières années par le biais du contexte familial, par sa mère qui a vécu la famille de sa mère liée à l'Italie, par le côté paternel en terre tchèque, par une branche de la famille maternelle qui vit à Paris. Donc on a déjà là un contexte cosmopolite. Et quand je dis charnel, mais ça passe par les sons des langues, ça passe par les odeurs, ça passe par la cuisine, et bon, la gastronomie joue un rôle important pour le bon vivant.
Hein, qui... C'est pas lui qui cuisinait. Voilà. C'est pas lui qui cuisinait.
C'était... Non, c'est pas lui, mais chez lui déjà, il est familiarisé avec les cuisines méditerranéennes. Et puis il y a la diversité des. Alors au-delà du cercle familial, il y a la diversité évidemment de Vienne, le multiculturalisme viennois, quand même essentiellement européen, sur lequel il insiste longuement. Déjà, bon, bien sûr, dans son autobiographie, mais il y revient. dès qu'il parle de Vienne, c'est le bon côté viennois, c'est d'abord cette diversité. Et je pense que effectivement, d'abord les impressions, le sensoriel a quelque chose de déterminant chez lui.
Parce que de toute façon, le sensoriel est peut-être ce qui prime chez cet homme qui pourtant n'était pas vraiment un homme du corps entendu au sens de l'exercice physique. Il était peut-être un homme du corps au sens de la sensualité, en tous les cas. Les sons dont vous parliez tout à l'heure, ces sons de l'Europe, où est-ce qu'on les retrouve, selon vous, chez Zweig?
Alors, dans sa façon de parler des langues de l'Europe, c'est un peu un thème récurrent. Hein. Quand il évoque un pays, quand il passe, par exemple, à Vigo en 36, à l'occasion d'une escale, on a toujours des notations sur les sons du lieu. Hein. C'est quelque chose de très fréquent. Et alors, évidemment, on a tendance toujours à parler du penseur, bien sûr. On va y venir. Mais il y a tout d'abord cet aspect qui fait peut-être aussi, pour sauter à l'autre bout de la trajectoire, la difficulté de Zweig à être privé de l'autre côté de l'Atlantique, de cette,
quand il
de
sera
cette
au
chair
Brésil.
Européenne, dont il cherchera un équivalent, un substitut au Brésil, beaucoup plus qu'à New York d'ailleurs, mais voilà, mais on y reviendra.
Alors, vous avez, je le disais en introduction, consacré également une biographie à Stefan Zweig. Et cette biographie, vous l'avez intitulée, ou plutôt sous-titrée, « Le voyageur et ses mondes ».
Ouais.
Pourquoi avoir accès à ce point-là, au point de choisir de mettre le voyage en exergue dans le sous-titre de cette biographie? Pourquoi autant avoir accès sur le voyage?
Parce que avec sous diverses modalités du voyage, c'est me semble-t-il la constante de l'existence de Zweig. On a d'une part les voyages oscillations, hein, entre Vienne et ailleurs, ou après la guerre entre Salzbourg et ailleurs, donc on peut dire entre les lieux de travail et les lieux d'expérience, pour simplifier. Hein. Et puis les
voyages. Parce que le voyage, c'est toujours une expérience pour lui.
Oh, oui, toujours. Même quand c'est une expérience qui n'est pas ardemment désirée, quand on passe des voyages de découverte aux voyages d'exil. Hein. Donc ensuite, après 34, c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis, c'est voilà. Mais dès la jeunesse, dès qu'il s'est libéré surtout de ses études, etc., et qu'il entre très tôt dans ce qu'on peut appeler l'âge adulte, il y a cette volonté d'aller voir ailleurs. Bon. Donc ça, effectivement, c'est un mouvement perpétuel.
Peut-être que si vous avez aussi choisi ce sous-titre-là, c'est que vous avez voulu mettre en évidence justement qu'à un moment donné de sa vie, il a été un apatride. Et peut-être que le fait d'être en voyage, souvent, presque toujours, a fait de lui un homme qui, au fond, ne faisait réellement partie d'aucun pays, ni européen, ni même de l'autre côté de l'Atlantique.
C'est vrai, c'est en partie subi, bon, c'est difficile de faire le partage, c'est en partie subi, c'est en partie recherché, c'est en partie subi parce qu'il y a la situation d'extraterritorialité du juif viennois qui cherche à s'insérer, mais qui est comme le chien, le chiot, dit Kafka, qui est en train de passer un ruisseau, mais il a les pattes d'un côté, les pattes arrière d'un côté, les pattes avant de l'autre, et il sait pas très bien où ça va finir. Donc effectivement, il y a pas vraiment de terre, d'ancrage, etc. Sinon, une espèce de continent qui est à la fois charnel, terrestre, spirituel, intellectuel, et qui est, oui, un ancrage européen. Mais alors là, un ancrage européen, il faut préciser les choses. Hein. C'est quelque chose d'assez vague. Si je peux continuer sur ce thème. Le premier grand déplacement, qu'est-ce qui se passe? Zweig va découvrir Berlin.
Bon. Donc très jeune, quand il part voilà. à Berlin pour étudier.
Dès qu'il est libre de circuler, de vivre un peu longuement ici ou là. Alors, bon, et puis ensuite, ce sera la France. Alors, Berlin, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que, d'une part, il va approfondir le contact, la relation intime avec une culture allemande qui est elle-même éminemment cosmopolite. Parce que c'est quelque chose qu'on perçoit souvent très très mal en France. L'Allemagne, par rapport, disons, à la France, par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Italie, a eu un retard de développement culturel considérable. Et qu'elle a comblé, qu'elle a compensé en important les influences européennes des pays, disons, plus avancés.
Un petit peu comme les États-Unis le feront plus tard.
Mais voilà. Bon. Et donc, cette compensation fait que il y a en Allemagne, à Berlin singulièrement, mais aussi à Munich, bon, un foisonnement d'avant-garde extrêmement stimulant. Bon, reste quand même le côté prussien, un peu contraignant, pesant, voilà. Et en revanche, Paris, c'est la terre de la liberté. Donc on va chercher ça, hein.
Alors justement, je vous propose d'écouter un petit peu ce qu'on peut lire dans Le Monde d'hier sur Paris.
Ah, il fallait avoir connu Berlin pour bien s'éprendre de Paris. Il fallait avoir éprouvé cette servilité volontaire de l'Allemagne avec son sentiment des rangs et des distances, accusé jusqu'à en être douloureux, où la femme d'un officier ne fréquentait pas celle d'un professeur, où celle-ci ne voyait pas l'épouse d'un commerçant, où cette dernière enfin ignorait totalement une femme d'ouvrier. À Paris, l'héritage de la Révolution était encore dans le sang. L'ouvrier prolétaire se sentait un citoyen aussi libre et considérable que son employeur. Le garçon de café serrait la main d'un général galonné comme un collègue. De petites bourgeoises, actives, sérieuses et propres, ne faisaient pas la grimace en rencontrant la prostituée dans le corridor. Elle causait tous les jours avec elle dans l'escalier et ses enfants lui donnaient des fleurs. Rien de pénible ou de guindé. Les relations avec les femmes se nouaient facilement, se rompaient de même. Chacun trouvait sa chacune, chaque jeune homme, une amie pleine de gaieté et qui ne s'encombrait pas de pruderie. Ah, que la vie était facile à Paris, qu'elle était bonne, surtout si l'on était jeune.
Ah, que la vie était bonne à Paris, surtout si l'on était jeune. Écrit dans Le Monde d'hier, Stefan Zweig, lu ici par Michel Duchossois. C'est une vraie déclaration d'amour à la capitale française, Serge Niemetz.
Ah oui, un attachement très, très, très durable. Un amour de, pas seulement de Paris, mais de l'ensemble. Il connaît vraiment toutes les provinces. Hein, il a beaucoup circulé.
Combien de temps est-il resté en France à peu près?
Pardon?
Combien de temps est-il resté en France? Plusieurs mois,
C'est difficile à dire parce que c'est souvent des séjours de 15 jours, mais c'est parfois des séjours de plusieurs mois. Hein. C'est à Bréa qu'il termine, si je me rappelle bien, sa thèse sur Renan aussi. Hein, Renan, bon. Voilà.
Oui, il faut choisir
sur
ce sujet-là.
C'est Thènes, pardon, j'ai dit des bêtises. Voilà. Alors, et puis, il y revient dès qu'il a la possibilité de faire un saut, ou pour souffler un peu après une période de travail intense, ou bien pour reprendre des relations avec des amis. Il se lie vraiment très tôt au groupe de l'abbaye, et il se lie, évidemment, à celui qui sera le maître le plus durable et le plus exigeant, qui est Romain Rolland, dont on reparlera peut-être après. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que cette trajectoire de Zweig, qu'on voit donc partir Berlin, Paris, etc., n'a rien de singulier. Hein, elle est liée au contexte autrichien. Quand on parlait de rattrapage, alors le rattrapage qui a eu lieu en Allemagne très anciennement a lieu maintenant, enfin, fin de siècle, hein, a lieu en Autriche, a lieu à Vienne. D'un côté, vous avez des gens comme Loos ou Hermann Bahr, alors, l'un qui va publier une revue pour l'introduction de la culture moderne en Autriche. Bon, ça rompt un peu avec l'image conventionnelle qu'on a de la Vienne de la modernité. Bon, Hermann Bahr, alors plus précisément, qui est une espèce de commis-voyageur de la culture européenne, qui va introduire toutes les nouveautés, qui est de la génération qui précède celle de Soiré. Mais alors, que fait-il ? Dès qu'il a la possibilité, lui aussi, de sortir, il va à Berlin et il va à Paris. Et on a de façon récurrente chez les intellectuels écrivains viennois, autrichiens, cette trajectoire-là. Hein, introduire par importation, comme ça, un souffle nouveau, un air nouveau dans la culture de la vieille Autriche.
Alors Paris, évidemment, on a envie de dire, c'est quand même un peu la capitale de l'Europe, au moins la capitale culturelle, en tout cas de l'Europe à ce moment-là, mais il ne dédaigne pas l'Espagne, il ne dédaigne pas l'Italie, et il va même aller jusqu'à New York en 1911. Donc on peut dire que entre 1905 et 1911, c'est une vie quasiment uniquement de voyage. En revanche, quand il est dans chacune de ces villes, il ne se sent pas forcément toujours à son aise. Il peut s'ennuyer aussi, parce que cette vie de voyage, elle n'a pas que des avantages, Serge Niemetz.
Exactement. Exactement. Parce que voyager, ça permet d'accumuler des impressions. Ce ne sont pas les conditions idéales pour travailler. Or, il y a chez lui aussi cette postulation. Hein, il faut travailler, même si, c'est un paradoxe, un de ses nombreux paradoxes, même s'il fait tout pour être connu, pour publier, et très tôt, et pour devenir un écrivain, très tôt également, il doute de ses capacités, quoi. Et puis, il doute, finalement, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup de se priver de la vie ? Parce que pour écrire, je suis forcé de mettre la vie à une certaine distance, et moi, j'ai envie de jouir de la vie.
Donc, c'est alors, une réflexion existentielle, en fait, que son rapport au travail.
Tout à fait. Donc, on voyage, ben oui, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut quand même se remettre à la table de travail. Et puis, alors après, quand sa première femme sera là pour le rappeler aux exigences d'un travail d'écrivain sérieux, ça deviendra compliqué. Mais alors, effectivement, donc, il voyage beaucoup dans ces années qui sont marquées par le sens du provisoire, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de vocation complètement affirmée. Il prospecte. Alors, il y a quand même, il y a l'Europe, mais il y a une étape que vous avez sautée, c'est celle de l'Angleterre. L'Angleterre, pour lui, c'est déjà plus l'Europe.
Alors, j'avais envie d'y revenir un petit peu plus tard, parce que précisément, il va devenir citoyen britannique, alors que précisément, et en ces temps de Brexit, je pense qu'il faut absolument que nous en parlions, Serge Niemetz, pour lui, la Grande-Bretagne, ça n'est pas l'Europe.
Exactement.
Pour quelle raison ? Racontez-nous un peu.
Alors bon, là je pense qu'on y reviendra après, mais juste très 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 brièvement, il voyage alors, vous avez dit New York, effectivement, bon plus tard on aura le Brésil, etc. Mais alors là, ça n'est pas, l'Amérique latine, hein, c'est vraiment un côté reporter touriste, mais il n'est pas dans un univers qui lui parle. Et alors quand il va vers l'Orient, il y a le grand voyage en Orient, hein, jusque vers la Birmanie, l'Extrême-Orient, oui, peut-être, mais alors l'Inde, c'est quelque chose qui lui est complètement incompréhensible.
Il reste un occidental, quand même.
Ah oui, alors là, il reste vraiment, là, européen, mais dans une certaine fermeture sur l'Europe.
Est-ce que c'est pas une sorte de Paul Morand, finalement, qu'on imagine voyageant davantage avec des Malvitons qu'avec un sac à dos ?
L'antisémitisme en moins.
Par définition.
Encore que, bon, on connaît aussi.
Non, mais dans son rapport au voyage. J'ai bien compris. L'homme pressé aussi, c'est pas un homme pressé, un petit peu Zweig.
Il y a ce côté, homme pressé, mais alors, il y a aussi aussi la différence entre un Morand qui va se lier à une aristocratie cosmopolite franchement assez désagréable, et un Zweig qui va chercher son aristocratie dans le domaine de l'esprit, pour y revenir.
Oh, il voit bien quelques comtesses quand même
européen,
de temps en temps, non?
Pardon.
Il doit bien voir quelques comtesses quand même de temps en temps, Stefan Zweig.
Oui, mais je pense qu'il y a vraiment une approche de la vie et de la littérature qui est très très différente.
Vous écoutez la compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de Zweig avec Serge Niemetz. Pardonnez-moi, j'écorche votre nom.
Non, oui.
On a évoqué un petit peu la Grande-Bretagne. C'est peut-être le moment quand même d'y revenir un petit peu. Et puis, ce mot « esprit européen » qu'en début d'émission, vous avez souhaité mettre provisoirement de côté pour parler finalement d'une espèce de sensualité, d'un rapport très charnel.
Exactement.
À l'Europe. Tout de même, est-ce qu'on peut revenir du coup sur ce que serait pour lui, comment on définirait cet esprit européen auquel il est si attaché?
Oui.
Et du coup, en quoi est-ce que la Grande-Bretagne n'en ferait pas partie?
D'accord. Alors là, je crois qu'on a deux questions.
Oui, prenons l'une après l'autre.
Un peu différent. Sur l'esprit européen, il y a quelque chose. Il ne faudrait encore une fois pas trop intellectualiser la chose. Zweig reconnaît bien volontiers qu'il n'a pas la tête métaphysique. J'ajouterais qu'il n'a pas non plus la tête théorique. Quand il théorise, c'est généralement en restant dans des considérations très, très consensuelles, une espèce de vision humaniste sur laquelle la plupart des intellectuels de bonne compagnie de l'époque peuvent tomber d'accord. Hein. Et il part de l'idée d'une espèce qu'il serait possible de créer, et ça c'est dans la continuité de Rilke d'ailleurs, il serait possible de constituer une espèce d'international européenne des esprits cultivés.
Donc hein. L'Europe, pour Zweig, ce ne serait qu'une Europe, alors ni économique comme elle verra le jour, encore moins
pas
politique comme on le sait, ce serait une Europe, un réseau culturel.
Oui, essentiellement un réseau culturel.
Donc une Europe des élites culturelles.
Alors, voilà, des élites culturelles, exactement. Libérer sans relation avec des positions trop extrêmes, effectivement. Quand on voit les gens qu'il fréquente, je voudrais pas dire de mal de l'Académie française, que j'ai longuement servi, mais on trouve une proportion importante de futurs académiciens. Et ça permet quand même de distinguer. C'est pas l'avant-garde des avant-gardes.
Donc au fond, cet esprit européen, est-ce que ça n'est pas d'une certaine façon une sorte de confort aussi? C'est-à-dire on est entre gens de bonne compagnie, finalement, on a tous une conversation polissée, on n'est pas comme tous ces gens de l'autre côté de l'Atlantique ou là-bas en Asie, ne connaissant pas comme nous la manière dont il faut se comporter, etc., etc. Donc il y a quelque chose dans cet esprit européen qui est moins agréable que ce qu'il n'y paraît au premier abord, ou pas selon vous?
Oui, c'est une application aussi de la philosophie spontanée du viennois vivre laisser vivre, hein, pas d'éclat, etc. Mais alors ça a aussi un côté négatif qu'on peut retrouver. Il y a un strict contemporain de Zweig, vraiment tout à fait le même âge, Müller, bon j'ai oublié son nom. Müller-Hinnegan explique que le viennois a une propension naturelle à fuir tout ce qui peut exiger une décision de sa part. Bon, donc dès qu'on est sur un terrain un peu brûlant où il faut prendre quelque chose, une décision qui engage vraiment des choses essentielles, on se retire doucement parce que là on risque d'avoir des éclats, des ruptures.
Et en cela, il est effectivement très viennois. Et donc l'Angleterre. Alors pourquoi, selon lui, y aurait-il le continent d'un côté et puis la Grande-Bretagne de l'autre ?
Ben je pense que c'est en partie dû à cette isolationnisme propre à la culture anglaise, déjà, hein, qui, vous connaissez la blague, hein, le continent est coupé de l'Angleterre, bon, un certain resserrement sur soi. Deuxièmement, pour retrouver le thème de la langue, il n'a jamais pu se mettre l'anglais dans l'oreille. Bon, alors que l'italien, le français, aucun problème, l'anglais d'Angleterre ou des États-Unis, ça coince. Et enfin, dans le monde qu'il fréquente, qu'il peut fréquenter en Angleterre dans cette période-là, le small talk, le fait de parler de chiens et de chevaux et de chats, ça lui est complètement étranger. Il est sur une planète complètement autre, effectivement. Donc là, ça ne passe pas, sans parler de la cuisine anglaise, évidemment. Mais enfin, bon.
Alors, ne critiquons pas la cuisine anglaise, qui a également ses bons aspects. À la toute fin de votre biographie de Stefan Zweig, Serge Niemetz, vous dites que nous sommes nous-mêmes en train de vivre la fin de notre monde d'hier, parce que c'est quand même tout un livre porté sur la nostalgie d'une ancienne Europe, d'une Europe perdue, qui, en l'occurrence, est l'Europe de son enfance. Mais vous écrivez, alors on est en 1990, hein, peut-être encore plus vrai aujourd'hui, on est en train de vivre la fin de notre monde d'hier, de l'illusion de durée et de stabilité des 30 Glorieuses, comme lui avait eu l'illusion de la durée et de la stabilité du moment de l'Empire.
Tout à fait. Tout à fait. Je le craignais quand j'ai écrit ce livre. Je le craignais encore plus quand je l'ai réédité en 2011. Et j'ai une vision assez désespérée de la situation à l'heure actuelle, effectivement.
Donc vous voyez vraiment un écho entre la période actuelle et le désespoir dans lequel est plongé Stefan Zweig au moment où il écrit Le monde d'hier, souvenir d'un Européen.
Ouais. Oui, oui. Je pense que c'est une part très, très malheureuse de l'actualité de l'œuvre. Oui.
Et vous citez le poète métaphysique John Donne quand il dit « All is in pieces, all coherence gone, all just supply and all relation. Tout tombe en pièces, se désagrège, toute cohérence paraît désertée. Un monde en proie, en somme, au tohu-bohu. »
Ouais. Oui, je pense que là, on a une rencontre... Tout à fait.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
h 28 sur France Culture. Serge Niemetz, je vous présente un nouveau venu dans la compagnie des auteurs. Il s'agit rien moins que du lauréat du prix NSI du journalisme littéraire 2015. Déjà, il se cache. J'ai nommé Grégoire Leménager de l'Obs, qui va donc venir, lui, ainsi que d'autres représentants du service culture de l'Obs, tous les jeudis dans cette émission. Bonjour Grégoire Leménager.
Bonjour.
Alors vous avez déclaré dans votre discours du réception du prix NC, du journalisme littéraire, que vous aviez fait ce métier pour passer du temps avec Giono, Kafka et Tchekhov, et que vous vous retrouviez avec un bureau empli de romans intimistes et informes et de copies de 50 nuances de Grey. Est-ce que vous avez eu la possibilité?
Non, il n'y a pas que ça dans mon bureau, heureusement. Et s'il y avait que ça, je crois que mon chef de service serait très fâché. Mais il y a beaucoup de livres, effectivement, qui paraissent en France. Ça, c'est évident. Mais alors, justement, donc, moi, je suis venu là aujourd'hui pour vous parler d'un autre pays que la France où on publie 4 fois plus de livres par rapport au nombre d'habitants.
Et ce pays, c'est l'Islande.
C'est un pays qui s'appelle l'Islande, où il y a 330 000 habitants, je crois, donc c'est moins que la population de Nice. Et mon camarade, mon compère David Caviglioli est allé passer un petit moment là-bas cet été, qui est un bon moment pour parler de livres, parce que c'est le moment où, comme il fait beau, les Islandais font enfin autre chose que lire. Mmh. Et il a fait un reportage qu'il y a à lire dans l'Obs cette semaine, et qui est vraiment très intéressant. Il nous explique que l'Islande donc, est le pays le plus lettré du monde et que même la France, avec ses 2 rentrées littéraires annuelles, ne rivalise pas, puisque chaque année, il y a 65% des Islandais qui achètent au moins un livre et qu'ils s'y publient 5 livres pour 1000 habitants. Donc c'est vraiment des proportions assez considérables. Alors toutes les proportions en Islande, ce qu'il explique aussi, sont toujours très spectaculaires.
Oui, il faut faire, parce que les pourcentages sont toujours très impressionnants.
Oui, évidemment, hein. Évidemment.
Vous, d'ailleurs, dans l'article, David Caviglioli cite le nombre de personnes venues en France pour la Coupe du Monde.
Ah oui, c'est ça. Oui, on raconte qu'au moment de l'Euro,
bien sûr,
où l'équipe d'Islande s'est illustrée, puisqu'elle est, cette sympathique équipe est arrivée en quart de finale, je crois. Ouais. Il y a 10% de la population islandaise qui a fait le voyage en France pour soutenir son équipe.
À la fin, ça fait jamais que 30 000 personnes.
Mais ça fait jamais que 30 000 personnes. Mais bon, pour revenir au livre, il y a un éditeur là qui lui explique qu'il y a un proverbe qui dit que si un Islandais n'a pas publié son livre, c'est qu'il est en train de l'écrire. Il a l'air de dire que c'est pas tout à fait impossible. Il dit qu'il reçoit un nombre de manuscrits considérable. Chaque livre apparemment se vend à 2000 exemplaires en moyenne dans sa maison d'édition.
Ce qui, cela dit, déjà pas mal même pour un premier roman en France,
ou même pour un premier roman en France. Et là encore, rapporté à la population, c'est comme si un livre moyen en France se vendait à 400 000 exemplaires. Mmh. Donc c'est un pays où les gens écrivent des livres et où les gens lisent des livres. Voilà. Donc et le papier est très très intéressant. Alors il y a les rigueurs du climat qui expliquent ça, il détaille tout ça, il y a un poids de l'histoire aussi, il y a des données culturelles importantes, et voilà, et qui font qu'ils se retrouvent avec même des hommes politiques qui écrivent des livres, je sais qu'en France, il y a des hommes politiques qui publient des livres, je sais pas s'ils les écrivent, mais là-bas, le président de la République est un historien, un de ses adversaires à la dernière présidentielle était un auteur de science-fiction qui est publié chez Ulma et qui est un bon auteur, enfin, voilà.
Alors, ce qui est très bien, c'est qu'ils considèrent quand même que la France est le grand pays de la littérature, donc ils sont très heureux quand il y a un succès islandais en France, comme ça a été le cas, et vous le rappelez, pour le rouge vif de la rhubarbe. Un autre sujet, celui que vous avez confié à Didier Jacob, un entretien avec André Ivanov.
Oui, alors là, on reste dans le nord de l'Europe. On s'éloigne un peu des voyages de Zweig, là on va un peu plus au nord. André Ivanov, c'est un type qui est né en Estonie, qui a été soudeur en Estonie, qui a fait 1000 petits boulots, et puis qui a fini par fuir la mafia de son pays et qui a échoué dans un camp de migrants au Danemark. Alors, je crois que ça se passe au début des années 2000. Et une bonne décennie plus tard, il avait fait une thèse sur Nabokov, par ailleurs. Donc, c'était un soudeur qui faisait une thèse sur Nabokov.
Jeunesse, ouais.
Et là, il a tiré de son expérience de clodo au Danemark, ayant échoué dans un camp de réfugiés, finalement, en mentant sur son identité pour avoir un certain confort de vie, comme il dit, puisque la vie de clodo commençait à le lasser. Il en a tiré un roman à la première personne qui est, alors moi j'ai pas lu l'intégralité du livre, mais j'en ai lu une partie. C'est, comme le dit Didier Jacob, très célinien comme style. C'est un mélange de Kerouac et de Céline. Et ça montre la face sombre de l'Europe propre scandinave avec ses camps de migrants qu'il a beaucoup fréquenté. Et évidemment, à l'heure actuelle, c'est un sujet qui ne doit pas laisser indifférent, je pense. Enfin, voilà.
Bien, écoutez, merci beaucoup Grégoire Leménager, vous reviendrez nous voir alors.
Mais je, quand vous voulez, bien sûr.
Et d'ici là, rendez-vous dans les colonnes évidemment de l'Obs. C'est France Culture que vous écoutez, vous êtes dans la compagnie des auteurs. Deuxième partie à présent de cet ultime numéro consacré à Stefan Zweig.
J'ai vu la très grande culture de cet homme, j'ai vu une culture qui était vraiment européenne. C'était un exemple de ce qu'était Vienne. Il était juif d'origine, mais il n'y avait pas de question juive à cette époque-là en Autriche. Du reste, à Vienne vivaient toutes sortes de nationalités. Il y avait des Polonais, il y avait des Roumains, il y avait des Hongrois, il y avait des Tchèques, il y avait des Juifs. Et lorsque, à un moment donné, l'antisémitisme avait commencé à Vienne, beaucoup plus tôt d'ailleurs qu'en Allemagne, c'était lorsqu'un certain Luger avait été élu bourgmestre. Il avait été élu bourgmestre en 1895 et un détail dont on n'a pas suffisamment souligné la portée mérite d'être signalé, c'est que l'empereur François-Joseph attendit 2 ans avant d'approuver l'élection. Voyez la différence de format et de politique entre l'Autriche des Habsbourg et ensuite l'Allemagne d'Adolf Hitler. Par conséquent, là, il n'y avait pas de question juive qui se posait. Les juifs occupaient les situations que leur vie méritait, soit leur travail, soit leur intelligence. Bref, ils étaient égaux en droit et en fait avec les autres citoyens. Il y a eu certainement chez Zweig un sentiment atroce quand il a vu, d'abord en Allemagne et ensuite en Autriche après l'Anschluss, les Juifs se trouver dans une situation de proscrit, de paria, être enfermés non plus dans le ghetto du Moyen-Âge, qui était un ghetto, un quartier qu'on fermait le soir, mais un ghetto moral qui leur interdisait des quantités de situations qui leur donnaient une existence de deuxième zone.
Une archive de Jean Missler, homme politique et écrivain qui souligne, Serge Niemetz, la culture profondément européenne, on le disait, de Zweig, et on pourrait même dire davantage européenne que juive ou européenne avant d'être juive.
Oui, oui, certainement. Sa relation au judaïsme est très complexe. D'un côté, il y a un attachement à une grande culture, une grande histoire. Bon, il y a un temps, la façon dont il parle de sa relation avec Herzl est très très singulière. Quand il dit « j'aurais pu devenir peut-être un des dirigeants du mouvement sioniste », tu parles, c'était pas du tout fait pour lui. Mais
pourquoi ? Qu'est-ce qui n'était pas fait pour lui ?
Peut-être à titre de rêve. Hein.
Qu'est-ce qui n'était pas fait pour lui ?
Diriger un parti quel qu'il soit, une organisation telle quelle qu'elle soit, et puis se lier effectivement à un mouvement national. Fut-il de libération, bon, bien, non, pas possible. Mais effectivement, si l'appartenance à au monde juif, disons, doit être exclusive d'autres attachements, alors c'est à rejeter totalement. Et il a peur sans arrêt, effectivement, d'être identifié comme écrivain juif. Non, je suis un écrivain allemand. Mais voilà, il se trouve que je suis juif. Bon, il est embarrassé, évidemment, avec cette question de l'identité. Hein
La question de l'identité, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve partout dans l'œuvre de Stefan Zweig.
Elle est centrale. Elle est tout à fait centrale. Alors, il y a un moment où il pense à ce... il dit, peut-être que je pourrais me faire juif. Comme nationalité, dans l'immédiate après-guerre. S'il y avait une nationalité juive en Europe, mais pas en Palestine, ça serait une possibilité. Ben oui, mais bon, c'est pas possible. Il se voit idéalement citoyen du monde, sans attache, mais en même temps... Bon, voilà, tout ce qui peut être limitation, enfermement dans une identité stable, fixe, fermée, etc., il n'en est pas question, il le rejette absolument.
Alors, Le Monde d'hier, c'est une autobiographie, mais c'est aussi, et on pourra revenir d'ailleurs juste après sur quel genre d'autobiographie constitue Le Monde d'hier, parce que c'est assez étonnant, finalement, oui. Formellement. Mais c'est un livre dans lequel on a l'impression qu'il illustre sa conception personnelle de l'histoire, de l'historiographie, Serge Niemetz. Est-ce que ça n'est pas un manifeste, quasiment, sur sa manière de voir l'histoire?
Probablement, encore que il est bien contraint dans le début, quand il parle du monde de la sécurité, de la fin de ce monde de la sécurité, il est bien forcé de faire intervenir le jeu des grandes masses humaines, qui entrent en conflit et qu'il n'avait pas perçu jusque-là.
Oui, mais il va faire intervenir toujours la poésie. Il va faire intervenir toujours le récit. Pour lui, finalement, l'histoire, ce sont aussi des personnages.
Oui.
C'est effectivement les faits, mais enfin, c'est quand même, comme vous le disiez d'ailleurs, plus intime, plus sensible qu'intellectuel.
Exactement.
Et ça, c'est quasiment un manifeste.
Oui, oui. Ça passe par le vécu et la relation intime avec des époques ou des personnage célèbre. Et alors, quand on parle de relations intimes, c'est marrant. Il est un jour en visite chez un voisin près de Salzbourg, Zuckmayer, homme de théâtre, romancier, etc. Et évidemment, la femme de Zuckmayer va à la cuisine ou à diverses occupations. C'est la conversation entre hommes. Hein. Bon, il y a ce côté quand même chez Zweig. Et elle les entend s'exciter, et Zweig surtout parler avec un enthousiasme, etc. Bon. Et après, quand Zweig est parti, elle demande à son mari, mais qu'est-ce qui se passait là, il me racontait les derniers potins de Versailles. Donc il était effectivement en train d'écrire son Marie-Antoinette. Et alors il était complètement là-dedans. Il était effectivement dans la relation physique. Il y était, il se baladait dans les jardins de Versailles, etc.
Et d'ailleurs, pour comprendre, d'une certaine façon, il a besoin de rencontrer presque. Il a besoin de toucher, enfin, même si ça n'est évidemment pas possible pour Marie-Antoinette, on est bien d'accord. Mais enfin, il a besoin de savoir exactement quel est le quotidien, comment ça se passe dans la vie des personnages, de ces personnages.
Et il a besoin de toucher. Mais oui, effectivement, il a besoin même de toucher les papiers. Il a besoin de toucher les autographes. Il a besoin d'être vraiment, effectivement, il faut qu'il touche les choses pour que ça fonctionne dans la tête.
Alors Zweig pense avoir connu l'âge d'or de la culture européenne au temps de sa jeunesse viennoise. Mais son épouse, Frédéric, qui d'ailleurs n'est pas très présente dans son autobiographie. On devine qu'il a été marié, mais elle est à peu près pas là. Eh bien, elle va s'étonner, finalement, de cette vision idéalisée d'une période de sa vie qui, quand on la regarde de plus près, et d'une période du monde aussi, n'était peut-être pas si formidable que ça.
Exactement par rapport à ce que disait Missler là, bon, il faut quand même mettre un bémol hein, sur le fait l'idéalisation de la situation des Juifs viennois, bon, dans une certaine société où on modérait l'expression de l'antisémitisme, mais quand même de façon assez récente des détails comme le fait que les étudiants juifs qui ont leur propre corporation ne sont pas Satisfaktionsfähig, autrement dit ils n'ont pas le droit, on ne les reconnaît pas comme pouvant se battre en duel. Bon, c'est pas rien hein.
Il y a ça et puis il y a aussi les mœurs qui sont effectivement très verrouillées à l'époque, et Zweig va devoir rajouter à cette autobiographie un chapitre intitulé Eros Matutinus.
Ouais.
Pour parler justement de
oui,
ça.
Oui, quand même, les contraintes, contraintes du corps, contraintes. Encore que, alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu une concession qu'il fait à Frédéric, donc sa femme. On va parler de ce terrain-là. bien que il ait eu une vie sexuelle extrêmement libre comme les autres qui
mais pourtant bon, il dit bien dans les premières pages
voilà.
Les enfants à l'époque, les adolescents n'étaient pas comme les enfants d'aujourd'hui.
Oui.
Ils étaient beaucoup plus contraints, et il insiste quand même là-dessus.
D'accord, hein. Et c'est vrai. Bon, mais on se rattrape très tôt hein, dès la puberté. Bon, mais c'est une concession qui est faite sur ce terrain pour ne pas, je pense, aussi concéder une révision de ses premières pages sur comme les Juifs étaient tranquilles, moi j'ai jamais eu d'ennui, tout s'est très bien passé, j'ai jamais été confronté. Non. Je crois que là, il a renoncé à donner satisfaction sur ce plan.
Serge Niemetz, on n'a pas encore parlé, alors qu'on arrive quasiment à la fin de cette émission, de la façon dont vous vous êtes intéressé à Zweig au départ et dont vous avez décidé d'écrire son autobiographie et de traduire son autobiographie et d'écrire une biographie. Au départ, vous le trouviez charmant, mais profondément superficiel.
Oui. Ben oui, parce que bon, ça c'était le souvenir que j'en avais gardé, ou l'oubli que j'en avais, parce que bon, je l'avais lu quand j'étais gamin, comme tout le monde à peu près dans ma génération et dans mon milieu, bon, d'accord. Puis j'étais passé à toute autre chose, j'étais beaucoup plus prussien que viennois, je suis traducteur, Pierre Belfond, qui avait racheté pour 3 cacahuètes les droits du Monde d'hier, l'avait d'abord réédité dans l'ancienne traduction, et puis il trouvait que c'était pas bon, quoi. Et il m'a demandé, il a vraiment beaucoup, beaucoup insisté pour que je refasse une traduction. Bon. Et ça m'embêtait, il me laissait peu de temps en plus. Bon, alors bien finalement, il était très, très, très charmeur. Bon, donc j'ai accepté. J'ai traduit son autobiographie. Et puis quand même, j'ai dit, bon, attends, le bonhomme est quand même plus compliqué que l'impression que j'avais. Et alors surtout, cette autobiographie est extrêmement singulière.
Voilà. Et justement, on le disait tout à l'heure.
Donc à toutes les pages, point d'interrogation. Vous parliez de sa femme qui en est absente, Frédéric, qui en est effectivement absente. Bon, oui, mais si elle n'avait pas été là, il n'aurait pas écrit cette autobiographie, ni nombre de... Parce qu'elle a un rôle essentiel dans sa vie, dans sa carrière.
Alors qu'est-ce qui la singularise finalement, cette autobiographie ?
Ben, il le dit très bien dans le début, c'est une autobiographie dans laquelle il se met en position de commentateur, mais on sait vraiment très très peu de choses de sa vie personnelle. Hein? Bon, alors,
c'est un essai au fond, plutôt qu'une autobiographie.
Pardon?
C'est un essai.
Oui, c'est un essai sur alors ce qu'il le titre d'origine, hein, c'était Mes trois vies. Bon, donc son existence personnelle n'apparaît comme le prisme qui lui permet d'analyser trois périodes du monde et singulièrement de l'Europe. Bon. Bouleversé par deux fois, donc une vie avant 14, une vie dans l'entre-deux-guerres et la période des succès, et puis après 34, 38, l'Anschluss et la perte définitive de ce monde d'hier. Alors là, voilà.
Et c'est sa troisième vie.
Mais il s'absente effectivement de cette biographie.
Il n'a que 60 ans quand il écrit Le Monde d'hier, mais pourtant il se sent comme un très vieil homme.
Alors là, ça a commencé très tôt. Il a une perception du passage du temps qui est totalement perturbée. Chaque anniversaire est pour lui un drame. Et alors singulièrement les décennies, hein. les décennies, il ne supporte pas ça. Et quand il commence à être vraiment très connu, dès ses 40 ans, encore plus à 50 ans, il ne supportait pas l'arrivée, l'avalanche de télégrammes, de vœux. Il s'enfuyait carrément de chez lui. Non, il y a une panique du temps qui passe.
Et pourtant, il n'a eu de cesse que d'avoir peur toute sa vie de manquer de temps. Et il le dit tout le temps, j'ai peur de manquer de temps. Et à la fin, il finit par couper de lui-même le temps qui lui reste.
Oui, parce que c'est un temps qui n'a de valeur que en relation avec certaines possibilités, notamment des possibilités de réalisation, d'expression, de travail, de publication, dans un univers où il puisse être accueilli.
Avant de quitter la vie par ma libre volonté et en toute lucidité, j'éprouve le besoin de remplir un dernier devoir. Remercier profondément le Brésil, ce merveilleux pays qui m'a procuré, ainsi que pour mon travail, une halte si bonne et si hospitalière. De jour en jour, j'ai appris à l'aimer davantage. Et nulle part ailleurs, je n'aurais préféré édifier une nouvelle existence. Une fois que l'univers de ma propre langue a sombré pour moi et que l'Europe, mon lieu d'attache spirituelle, s'est elle-même anéantie. Mais après 60 ans, il faudrait avoir des forces particulières pour complètement recommencer sa vie. Et les miennes sont épuisées par les longues années de pérégrination loin de mon lieu d'attache. Aussi, je pense qu'il vaut mieux mettre fin à temps et la tête haute à une existence où le travail intellectuel a toujours été la joie la plus pure et la liberté personnelle le bien suprême de ce monde.
Voilà un extrait du message de Zweig adressé aux autorités brésiliennes avant de se donner la mort avec sa nouvelle femme, Lotte, lui ici, par Michel Duchaussois. Dans les dernières années de sa vie, à Petropolis, les derniers mois, faudrait-il dire, il a trouvé tout de même du réconfort dans un autre grand classique, un très grand classique, celui-là. Et ce grand classique, c'est Montaigne. Il a vu des correspondances entre le XVIe siècle troublé et le XXe siècle des années 1942 dans lequel il se trouvait. Serge Niemietz.
Ouais. Oui. Le réconfort cherché dans de grands modèles du passé, c'est quelque chose qu'on trouve déjà dans son Erasme que vous citiez tout à l'heure, dans son Castellion. Hein, voilà, il y a comme ça, effectivement. Avec Montaigne, on n'est plus, me semble-t-il, dans la modalité de la consolation. On est dans la découverte d'un modèle de réappropriation d'une liberté malgré tout.
Pour rendre
compte du suicide de Zweig, on a avancé toutes sortes de raisons qui bien sûr existent. Il est vrai qu'il attendait la possibilité de s'appuyer sur sa jeune nouvelle femme, et il s'aperçoit qu'en fait c'est elle qui doit s'appuyer sur lui. Elle est malade, elle est fragile,
elle est asthmatique, très asthmatique.
Il y a ça, il y a l'isolement au Brésil, il y a la perte. Romain Rolland dira, bon, le brave Stéphane voulait partir mais sur de nouvelles bases. Il est allé traverser l'Atlantique, mais il ne pouvait vivre et prospérer qu'en Europe. Bon, mais Montaigne lui donne une issue. D'abord, il y a des ressemblances.
On va malheureusement pas pouvoir aller plus loin que sur cette issue que vous nous fournissez, Serge Niemietz, pour nous échapper vers la poésie qui sans doute était également pour Zweig une échappatoire. Ce n'était pas la poésie de Jacques Bonnafé, cela dit, que nous allons nous apprêter à écouter.
Bonjour, c'est la rentrée, oui c'est la rentrée, on l'a dit, mais c'est l'occasion de présenter les programmes. Nous commencerons la semaine prochaine avec Marie-Claire Bancard dans « Qui vient de loin ?», édité au Castor Astral. Oui, parfois, c'est l'hiver des choses. Contre la mort, l'espoir meurt de froid. Mais donner forme à l'inconnu, prendre parole, mot par mot, doucement, comme on trie des lentilles. Monde invisible, tu te gonfles de jour, alors, dans un éclat de transparence partagé. Et puis nous écouterons Eugène Guivic dans Art poétique. Je dois te dire, bien qu'il m'en coûte, que tu saches, quand je suis seul, je parle. Ne me demande pas ce que je dis. Peut-être je te le dirai, si je savais, mais si je le savais, je n'aurais plus sans doute ce besoin de parler. Nous passerons une semaine avec Sylvia Plath, traduite de l'anglais par Valérie Rouzeau. Après des années, je les retrouve sur le chemin sec, sans cavalier, les mots et leur galop infatigable, quand depuis le fond de l'étang les étoiles régissent une vie. Avec Jacques Reda, nous étudierons un peu la physique amusante. La Terre tourne dans un ciel ouvert qui l'emprisonne. Écoutez-moi, n'ayez pas peur. Je dois vous parler à travers quelque chose qui n'a pas de nom. Dans la langue que j'ai connue, sinon justement quelque chose sans étendue, sans profondeur et qui ne fait jamais obstacle. Mais tout s'est affaibli. Écoutez-moi, n'ayez pas peur. Essayez, si je crie, de comprendre. Celui qui parle entend sa voix dans sa tête fermée. Or, comment je pourrais, moi qu'on vient de jeter dans l'ouverture et qui suis décousu? Extrait de récitatif de Jacques Reda. Nous écouterons Yves Bonnefoy, aussi décédé en ce 1er juillet 2016. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Ce n'est pas un texte de Yves Bonnefoy, mais de Birago Diop que nous écoutions hier. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts.
Les six mots de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Jacques Bonnafé, en point d'orgue à ce dernier épisode d'une compagnie des auteurs consacrée depuis lundi à Stefan Zweig. Merci à Serge Niemietz qui nous a permis de parcourir la pensée profondément européenne, on l'a vu, de Stefan Zweig en conclusion de cette semaine qui était consacrée à sa vie et son œuvre. Une semaine que vous pouvez retrouver dans son intégralité en podcast. N'hésitez pas non plus à vous plonger dans nos archives.